L'ennui, avec un certain type de guerre, c'est qu'il détruit, et vous pouvez être sûr que le tyran le savait, car la leçon est implicitement contenue dans son enseignement, toute parcelle de sens moral chez les individus vulnérables. Les guerres de ce type ont pour conséquence de replonger les survivants intérieurement détruits au milieu de populations innocentes parfaitement incapables d'imaginer ce dont ces soldats de retour sont capables. Les leçons du Sentier d'Or, archives du Bene Gesserit. L'un des plus anciens souvenirs de Miles Teg se situait dans la salle à manger, où il prenait ses repas avec ses parents et son jeune frère Sabine. Teg n'avait que 7 ans à l'époque, mais ces événements étaient gravés d'une manière indélébile dans sa mémoire. La salle à manger sur l'Ernae s'était décorée de fleurs multicolores fraîchement cueillies. La lumière rase du soleil jaune était diffusée par d'antiques tentures. La vaisselle de fine porcelaine bleue et l'argenterie étincelante rehaussaient la table. Les acolytes étaient toujours là à portée de la main, car même si la mère de Miles était détachée en service spécial à titre permanent, il ne fallait pas gaspiller ses talents d'instructrice du Bene Gesserit. Janet Roxbrough Teg était une femme au visage large et osseux, fait pour appartenir à une grande dame. Elle avait une façon de veiller, de la place qu'elle occupait à une extrémité de la table, à l'impeccable qualité du service, qui faisait toujours légèrement sourire Loshi Teg, le père de Miles. C'était un homme mince, au front haut, au visage si étroit que ses yeux foncés semblaient saillir sur le côté. Ses cheveux noirs formaient un contraste parfait avec la blondeur de sa femme. Dominant de sa voix douce le cliquetis des couverts et la riche odeur épicée de la soupe d'édue, sa mère était en train d'expliquer à son père la manière de traiter un libre négociant important. Quand elle avait prononcé le nom de Tleilax, Miles avait dressé l'oreille, car son programme d'enseignement portait justement en ce moment sur le Bene Tleilax. Même Sabine, qui devait succomber bien des années plus tard au poison d'un assassin sur Romo, s'efforçait d'écouter avec toute l'attention que lui permettaient ses 4 ans. Sabine admirait son frère comme un héros. Tout ce qui était digne d'intérêt pour Miles l'était également pour Sabine. Les deux frères écoutaient donc la conversation en silence.
« C'est un homme de paille d'être Tleilaxu, » disait Dame Janet. « Je l'entends à sa voix. »«
Je ne doute pas de ton habileté à déceler ces choses-là, ma chère, » répondit Loshi Teg. « Mais qui puis-je ? Il est dûment accrédité et propose de m'acheter. »
Cette commande de riz est sans importance pour le moment. Ne te laisse jamais leurrer par un danseur visage. Ce qu'il recherche n'a rien à voir avec ce qu'il paraît rechercher.
Mais je suis sûr que ce n'est pas un danseur. Il...
Loshi, c'est moi qui t'ai enseigné à les repérer et je sais très bien que tu en es capable. Bien sûr que ce libre négociant n'est pas un danseur visage. Ils sont restés à bord du vaisseau. Ils savent que je suis ici.
Et qu'ils ne peuvent pas te duper. Bien sûr. Mais tout de même,
la stratégie du Tleilax fait toujours partie d'un tissu de stratégies contradictoires, parmi lesquelles une seule est la bonne. C'est à notre école qu'ils ont appris cela.
Ma chère, si nous avons affaire au Tleilaxu, et je ne discute pas ton jugement, c'est qu'il s'agit d'une question de mélange.
Dame Janet hocha doucement la tête. En fait, même Miles connaissait le rapport étroit qui existait entre le Tleilax et l'épice. C'était l'une des choses qui le fascinait à propos du Tleilax. Pour chaque milligramme de mélange découvert sur Rakis, les cuves de Bene Tleilax en produisaient des tonnes. Le marché s'était élargi en fonction de ces nouvelles ressources et même la guilde spatiale avait dû s'incliner devant toute cette puissance.
« Mais le riz !» commença Loshi Teg.
« Mon cher époux, le Bene Tleilax n'a nul besoin de telle quantité de riz ponji dans notre secteur. C'est pour l'échanger qu'ils en ont besoin. Nous devons découvrir à qui il est destiné en réalité.
Tu veux que je les fasse attendre?
À la bonne heure. Tu sauras t'en tirer à merveille. Tu ne donneras pas à ce libre négociant l'occasion de dire oui ou non. Quelqu'un qui a été formé au contact des danseurs visages appréciera la subtilité.
Nous forçons les danseurs visages à sortir de leur vaisseau pendant que tu lances ta petite enquête ailleurs.
Tu es merveilleux, sourit Dame Janet, quand tu prends ainsi les devants.
Ils échangèrent un tendre sourire de complicité.
Il ne peut se tourner vers aucun autre fournisseur dans ce secteur, fit remarquer Lochiteg.
Il vaudra par-dessus tout éviter qu'on lui dise que c'est à prendre ou à laisser, fit Dame Janet en tapotant le dessus de la table. Nous devons gagner du temps, le plus possible de temps. Il faut forcer les danseurs visages à mettre le nez hors de leur vaisseau.
Ils vont s'en rendre compte, bien sûr.
Oui, mon cher. Et c'est ce qui est dangereux. Tu ne devras les rencontrer que sur ton propre terrain, avec une bonne escorte à proximité.
Miles se souvenait que son père avait effectivement réussi à faire sortir les danseurs visages de leur vaisseau. Sa mère l'avait laissé regarder sur l'écran Judas, la petite pièce aux parois doublée de laiton où son père avait mené les tractations qui lui avaient valu les félicitations du chum, sans compter un bénéfice substantiel pour lui-même. C'étaient les premiers danseurs visages que Miles Tegg avait l'occasion d'observer. Deux petits hommes aussi semblables que des jumeaux. Une figure ronde, pratiquement sans menton, un nez rond retroussé, une bouche fine, des yeux noirs légèrement protubérants et des cheveux blancs coupés courts qui se dressaient sur leur tête comme les poils d'une brosse. Ils portaient les mêmes vêtements que le libre négociant, tunique noire et pantalon noir.
L'illusion, Miles, lui avait dit sa mère. N'oublie jamais cela. L'illusion est leur domaine. Les clés Laxu ne procèdent que d'une seule manière. Fabriquer des illusions pour atteindre leur objectif réel. Comme le magicien au cirque d'hiver? Demanda Miles, sans quitter des yeux l'écran Judas où s'animaient les petits personnages. Tout à fait, répondit Dame Janet.
Elle regardait aussi l'écran tout en parlant, la main posée sur l'épaule de son fils en un geste de protection.
« Observe bien, Miles, » reprit-elle. « Ce sont des êtres malfaisants que tu vois là. Leur visage peut se transformer en un instant. Ils peuvent grandir de taille, paraître plus lourds. Ils pourraient imiter ton père de manière si parfaite que je serais la seule à pouvoir découvrir la substitution. »
La bouche de Miles Tegg s'arrondit en un « haut silencieux ». Son attention demeurait rivée à l'écran, où il entendait son père expliquer que les cours du Riponji du Chum avaient de nouveau grimpé de manière alarmante.
Le plus terrible de tout, avait continué Dame Janet, c'est que certains danseurs parmi les plus récents sont capables, par simple contact avec leurs victimes, d'absorber une partie de leurs souvenirs. En lisant leurs pensées, demanda Miles, surpris en se tournant vers sa mère. Pas exactement. Nous pensons qu'ils prennent plutôt une sorte de cliché de la mémoire, analogue à un enregistrement holo. Ils ne savent pas encore que nous sommes au courant.
Miles comprit qu'il ne devait parler de cela à personne, pas même à son père ni à sa mère. Elle lui avait appris la notion du secret Bene Gesserit. Il continuait de regarder l'écran avec fascination. Les danseurs visages ne manifestaient aucune réaction devant les paroles de son père. Seuls leurs yeux paraissaient briller avec un peu plus d'intensité.
Pourquoi sont-ils si mauvais? Demanda Miles. Ce sont des êtres communautaires, conçus pour ne jamais s'identifier à une forme ou à un visage particulier. C'est à mon intention qu'ils ont pris l'aspect que tu leur vois en ce moment. Ils savent que je les regarde. C'est leur apparence communautaire de base. Observe-les bien.
Miles s'inclina la tête sur le côté et contempla les danseurs visages. Ils paraissaient si neutres, si inefficaces.
Ils n'ont aucune identité, continua sa mère. Ils n'ont que l'instinct de préserver leur propre existence, sauf s'ils ont reçu l'ordre de mourir pour leur maître. Ils en sont capables. Ils l'ont fait de nombreuses fois. Qui sont leurs maîtres? Des gens qui quittent rarement les planètes du Bene Kleilax. Ils peuvent avoir des enfants. Pas les danseurs visages. Ce sont des hybrides, stériles. Mais leurs maîtres se reproduisent. Leur progéniture est étrange. Nous en avons capturé quelques spécimens. Il y a très peu de femelles et nous n'avons pas réussi à sonder leur mémoire seconde.
Miles fronça les sourcils. Il savait que sa mère était une Bene Gesserit. Il savait que les révérendes mères portaient en elles un merveilleux réservoir de souvenirs profonds qui remontaient à des millénaires de là. Au tout premier temps du Bene Gesserit. Miles était même en partie au courant de l'existence du programme génétique des sœurs. Elle sélectionnait soigneusement les mâles qui leur donnaient des enfants.
« Comment sont les femmes Clay Laxu ?» demanda Miles.
C'était une question perspicace, qui fit naître en Dame Janet un frisson de fierté pour son fils.
Oui, il y avait de fortes chances pour qu'elle ait là un mentat en puissance. Les maîtresses généticiennes avaient parfaitement bien évalué les potentialités de l'Oshiteg.
Personne, en dehors de leur planète, n'a jamais vu de femelles Clay Laxu, répondit-elle.
Est-ce qu'elles existent, ou bien n'y a-t-il que les cuves ?
Elles existent.
Y a-t-il aussi des danseuses ?
Ils sont mâles ou femelles à volonté. Observe-les avec attention. Ils ont compris ce que ton père veut faire, et cela les irrite.
Vont-ils chercher à lui faire du mal ?
Ils n'oseront pas.
Ils savent que nous avons pris nos précautions.
Regarde la manière dont celui de gauche crispe la mâchoire. C'est un signe de colère chez eux.
Tu disais que c'était des êtres communautaires.
Leur instinct ressemble à celui de la ruche, Miles. Ils n'ont pas d'image propre. Sans identité personnelle, ils transcendent la moralité. Tu ne dois croire en rien de ce qu'ils peuvent dire ou faire.
Miles frissonna.
Nous n'avons jamais pu déceler l'existence chez eux du moindre code moral, continua Dame Janet. Ce sont des automates de chair, sans personnalité. Ils ne peuvent avoir ni idéal, ni doute. Ils ne sont faits que pour obéir à leur maître.
Et ils ont reçu l'ordre de venir ici acheter notre riz ?
Exactement. On leur a dit d'acheter du riz et il n'y a aucun autre endroit dans ce secteur où ils peuvent s'en procurer.
Ils sont obligés de passer par mon père ?
Il est leur seule source possible. Regarde, ils sont en train de le payer en mélange.
Miles vit les plaquettes d'épices brunâtres changer de main. Il y en avait toute une pile que l'un des danseurs visages avait tirée d'une mallette posée par terre.
Le prix est bien plus élevé que tout ce à quoi ils auraient pu s'attendre, reprit Dame Janet. La piste sera facile à suivre.
Pourquoi ?
Quelqu'un va certainement être ruiné dans cette opération. Nous croyons savoir qui est l'acheteur. Lui ou un autre, nous finirons bien par l'apprendre. Nous saurons alors quel était l'enjeu réel de la transaction.
Dame Janet lui indiqua ensuite les différents détails qui permettaient à des oreilles et à des yeux exercés de repérer un danseur visage. C'étaient des signes particulièrement subtils, mais Miles apprenait vite. Sa mère lui révéla aussi à cette occasion qu'il deviendrait probablement un jour un mentat, ou encore bien plus. Peu avant son 13e anniversaire, Miles Tegg fut envoyé à la citadelle du Bene Gesserit sur Lampada pour y recevoir un enseignement spécial. Là, le jugement de sa mère fut confirmé. Elle reçut un message qui lui disait « Vous nous avez donné le guerrier Mentat que nous attendions ». Tegg ne connut l'existence de cette note qu'après la mort de sa mère, quand il mit de l'ordre dans ses affaires. Les mots étaient gravés sur un minuscule feuillet de cristal rédulien qui portait le sceau de la maison du chapitre. Il l'avait empli d'une étrange sensation de déplacement temporel. Sa mémoire l'avait brusquement replongé à l'époque de Lampada, où l'amour-dévotion qu'il portait à sa mère avait été adroitement dirigé vers le Bene Gesserit tout entier, comme prévu à l'origine. Il n'avait compris cela que pendant les dernières années de sa formation de Mentat, mais qu'est-ce que cela changeait ? Au contraire, ses liens avec le Bene Gesserit s'en étaient trouvés renforcés. Il avait la confirmation que l'ordre était pour lui une source de puissance. Le Bene Gesserit, il le savait déjà, était l'une des forces les plus puissantes dans son univers. Au moins égale à la Guilde Spatiale, supérieure à la Fédération des Truites qui avait hérité le noyau de l'ancien Empire des Atreides, supérieure de très loin aux Chom, à peu près à égalité avec les fabricants d'X, et le Bene Tleilax. Une faible mesure de l'influence universelle exercée par la communauté des sœurs pouvait être déduite du fait qu'elles avaient conservé cette autorité malgré l'apparition du mélange issu des cuves du Tleilax, qui avait cassé le monopole de Rakis sur l'épice tout comme les machines de navigation Ixienne avaient cassé le monopole de la guilde sur les voyages spatiaux. Miles Tegg connaissait déjà bien son histoire à cette époque-là. Les navigateurs de la guilde n'étaient plus les seuls à savoir faire passer un vaisseau à travers les replis de l'espace. Ici, à un moment donné, dans une galaxie lointaine au battement de cœur suivant. Les sœurs instructrices ne lui cachaient presque rien. Ici, pour la première fois, il avait appris qu'il descendait des Atréides. Cette révélation avait été rendue nécessaire par la nature même des tests auxquels il était soumis. De toute évidence, on voulait mesurer ses facultés de prescience. Avait-il le pouvoir, comme les navigateurs de la guilde, de déceler les obstructions fatales? Les tests n'avaient rien donné. On l'avait mis en présence de non-vaisseaux et de non-espaces. Il était aussi impuissant devant eux que le reste de l'humanité. Pour cette épreuve, cependant, on lui avait fait absorber des doses croissantes d'épices, et cela lui avait apporté la révélation de son moi véritable. L'esprit du premier éveil, comme l'avait appelé la sœur instructrice, à qui il avait demandé l'explication de cette étrange sensation. Pendant quelque temps pour lui, l'univers avait été magique. La perception qu'il en avait était un cercle, puis un globe. Les formes arbitraires devenaient transitoires. Sans avertissement, il tombait en transe, jusqu'à ce que les sœurs lui aient appris à contrôler le phénomène. Elles lui fournirent des témoignages de saints et de mystiques et lui firent tracer un cercle à main levée de chaque côté en concentrant son attention sur son doigt. Avant la fin de ce cycle d'études, ses perceptions avaient renoué le contact avec les étiquettes conventionnelles, mais le souvenir de ces instants magiques ne l'avait jamais quitté, et il y puisait dans les moments difficiles une force considérable. Après avoir accepté la charge de maître d'armes auprès du Gola, Tegg avait eu de plus en plus recours à cette force magique. Elle lui avait été particulièrement utile lors de son premier entretien avec Shuangyu, à son arrivée dans la citadelle de Gameux. La rencontre avait eu lieu dans le bureau de la révérende mère, une pièce aux parois de métal brillant, encombrée d'appareils qui, pour la plupart, portaient l'estampille d'X. Même le fauteuil sur lequel elle était assise, le dos à la clarté du jour qui pénétrait par la grande fenêtre et rendait les traits de son visage impossibles à discerner. Même ce fauteuil à ajustement automatique provenait des ateliers Xiens. Tegg, pour sa part, avait été obligé de s'asseoir dans un canisiège, ce qui voulait dire, pensait-il, qu'elle connaissait son aversion pour l'utilisation de toute forme de vie à des fins aussi dégradantes.
« Vous avez été choisi, lui dit Shuangyu, pour votre image de patriarche. Votre sagesse vous vaudra l'amour et le respect du Gola. »
Le soleil éclatant formait une couronne aveugle autour de sa tête encapuchonnée.
C'était délibéré. « Je ne saurais donner une image de père, répondit-il. « D'après Taratsa, vous possédez exactement les caractéristiques qu'elle recherchait. Je suis au courant de votre carrière prestigieuse et de la valeur qu'elle représente pour nous. »
Cela ne faisait que confirmer ses précédentes computations de Mentat. Il y a longtemps qu'elle préparait cela. C'était prévu dans leur programme de sélection. Je suis le résultat de ce programme. Je fais partie de leur maître plan. Mais il se contenta de dire à haute voix
« Taratsa espère que cet enfant se transformera en guerrier redoutable quand il aura recouvré sa véritable personnalité. »
Shuangyu le considéra longuement avant de déclarer
« Vous ne devrez répondre à aucune de ces questions sur les Gola s'il venait à aborder le sujet. N'utilisez même pas ce terme en sa présence tant que je ne vous en aurai pas donné la permission. » Nous vous fournirons toutes les données sur les Gola dont vous pourrez avoir besoin pour exercer vos fonctions. »
Égrenant froidement ces mots pour obtenir plus d'emphase, Tegg répondit
« Peut-être la révérende mère n'a-t-elle pas été informée que les Gola du Tleilax sont un sujet qui m'est passablement familier. J'ai affronté les Tleilaxus sur les champs de bataille. « Vous croyez que vous en savez assez sur la série Idaho ? Les Duncan Idaho ont une réputation de grands stratèges militaires.
Peut-être le grand Bachar n'a-t-il pas été informé des autres caractéristiques de notre Gola.
Impossible de se méprendre sur l'ironie qui était dans sa voix. Mais il y avait aussi autre chose.
De la jalousie et une fureur mal dissimulée.
La mère de Teg lui avait enseigné à lire à travers ses propres masques, ce qui faisait partie des leçons interdites, et il avait toujours caché ce talent. Il feignit la contrition et haussa les épaules. Il était évident cependant que Shfangyu avait compris qu'il était le Bachar de Taratsa. La limite était tracée.
À la demande du Bene Gesserit, expliqua Shfangyu, quelques modifications importantes ont été apportées par les Tleilaxu à la présente série. Le système neuromusculaire du Gola a été modernisé.
Sans transformer sa personnalité originale?
Teg lui avait posé la question en feignant l'innocence, curieux de voir jusqu'où elle irait dans la voie des révélations.
Ce n'est pas un clone, c'est un Gola.
Je vois.
Vous croyez vraiment? Quoi qu'il en soit, cet état de choses nécessite une rigoureuse formation prana-bindu à tous les stades.
Ce sont exactement les ordres de Taratsa, dit Teg, et tout le monde aura à lui obéir.
Shfangyu se pencha en avant sans chercher à dissimuler sa colère.
On vous a donné pour tâche de former un Gola dont le rôle sur bien des plans représentera une menace considérable pour nous tous. Je ne crois pas que vous ayez la moindre idée de ce que vous allez contribuer à créer.
Elle en parle comme d'un objet, se dit-il. Pour elle, comme pour toutes les autres révérendes mères qui s'opposaient à Taratsa, l'enfant Gola ne serait jamais un être humain. Peut-être ne le serait-il pour personne tant qu'il n'aurait pas découvert sa véritable personnalité, fermement ancrée à l'identité du Duncan Idaho original. Teg voyait clairement à présent que Shfangyu nourrissait plus que des réserves cachées sur le projet Gola. Elle était activement dans l'opposition, comme l'avait laissé entendre Taratsa. Shfangyu était dans l'autre camp, et les ordres de Taratsa étaient formels. « Vous aurez à protéger l'enfant contre toute menace, d'où qu'elle vienne. »